Théo Varlet, télépathie. Le hashish, jamais je n'en avais pris. Non que j'affecte une magnanimité naïve à la Balzac et refuse de penser malgré moi-même. J'envisage au contraire les poisons comme une manière de sport et les aperçus nouveaux qu'ils ouvrent sur le monde de l'esprit me séduisent à l'instar d'une course en automobile, d'un voyage en ballon ou d'une plongée en sous-marin. Trop tôt, j'ai découvert ma voie, trop tôt. C'est seulement à l'aube de mes recherches que j'ai pu hésiter, éclectique, entre les divers paradis artificiels. J'eus bien alors pour le haschich une passagère curiosité, mais cette drogue orientale me semblait si ardue à obtenir que je remis la chose de jour en jour et finalement n'y pensais plus. Vieil initié du bon poison, j'ai pris un peu de cet exclusivisme qui nous fait toxicomanes aussi sectaires que prêtres de religions différentes. Le morphiné traite de turc à mort le fumeur d'opium, et les brutes ivres d'alcool n'ont pas assez d'injures pour nous autres dégustateurs d'éther. Ne le rendons bien du reste. Et quant à moi, sans aller jusqu'à suspecter Baudelaire, j'ai toujours cru et tenu son haschich en fort piètre estime. Maintenant, je le connais. C'est pire que de la défiance. Oh, et on ne m'y prendra plus. Avec l'éther, au moins, on sait à quoi s'en tenir. On peut établir la formule de sa folie, sa teneur moyenne en rêve. Il se dose à quelques décigrammes près. Et je connais d'avance le résultat de chaque éthérisation. Absorber de l'opium est encore possible, malgré les coupables sophistications des apothicaires et les fâcheuses lacunes de son efficacité. Mais si vous avez l'esprit un tant soit peu mathématique, si vous tenez à conserver dans la démence cette lucidité d'analyse qui forme pour les esthéticiens de l'ivresse la meilleure volupté, se regarder être ivre, s'il vous plaît de lancer votre rêve comme un obéissant aéroplane dans le ciel de la folie pure, gardez-vous du haschich, du ténébreux et perfide haschich. Le haschich, quand vous l'avez absorbé, c'est fini, plus rien à faire, vous êtes embarqué, pieds et poings liés, sur une mécanique indirigeable remontée pour un vol inconnu. Je n'en soupçonnais rien lorsque j'acceptais un après-midi l'offre d'Albert Schellas. J'étonnais de me voir fervent de paradis artificiel ignorer celui-ci. L'obtenir, oh, c'est bien simple. Tout droguiste fournit au premier venu des quantités indéterminées de cannabis indica. Les pharmaciens eux-mêmes en délivrent, vu le grotesque usage qu'on peut en faire de soulager les corps aux pieds, les durillons et les yeux de perdrix. Schellas, ayant comme maint habitué d'un seul poison la manie de recruter des adeptes, était heureux de m'initier à sa drogue favorite et caressait peut-être l'espoir de me faire abjurer l'éther. Il prépara, selon des rites minutieux, du café très fort et très chaud, tira d'un petit pot de Delft deux parties inégales de haschich, fit dissoudre la plus grosse dans sa tasse et m'offrit l'autre sur une cuillère. C'était une sorte de glu vert sombre d'une odeur pénétrante d'herbes amérique-cageuses et d'une saveur âcre qui serait celle du thé Sun Chang, poussé à une concentration excessive. Mélangé au café, la chose était buvable. et le second tasse dissipa le goût momentanément. Pour passer l'heure préliminaire d'attente, où rien ne se manifeste, je proposais de relire les paradis artificiels comme un John de ce pays merveilleux où j'allais m'aventurer. Cela m'en dissuada. Il est contraire à la spontanéité des impressions de ces suggestions nérincies. On doit laisser venir les faits de lui-même. Et en bon familier du haschich, il se mit à parler de choses indifférentes, sans la moindre allusion à la drogue. Malgré mes efforts, j'étais distrait. L'énigmatique résultat m'inquiétait. Cette inefficacité provisoire, ce silence du poison, déroutait mon expérience. Qu'arriverait-il ensuite? Serait-ce comme avec l'éther, une béatitude ineffable, produisant au défilé des rêves? Ou bien l'océan d'images, les idées chatoyantes et agiles de l'opium? Allongé dans un fauteuil auprès du feu, j'examinais attentivement la vaste pièce éclairée du haut par une seule lampe électrique. J'épiais les coins sombres que devaient hanter chaque soir les fantasmes du haschich. En vain, Shailas, étendu de l'autre côté de la table, où sa tête seule m'apparaissait parmi ses livres et les bibelots, fumait nonchalamment sa longue pipe hollandaise et causait avec une placidité qui redoublait mon impatience. Et dans les intervalles de la conversation, je prenais mon souffle, je le retenais pour m'assurer que la pendule fonctionnait toujours. Je m'observais avec minutie. Le goût fâcheux d'herbes marécageuses rôdait à nouveau sous mon palais. Ma gorge était sèche, mais je n'avais nul désir d'allonger le bras vers ma tasse de café pour vider les quelques gouttes restantes. La chaleur du feu de coke me pénétrait d'une somnolence irrésistible, nullement désagréable. Mes jambes s'alourdissaient comme au début de l'opium. Rien d'autre. C'était peu, 45 minutes après l'absorption. Les hautes bibliothèques bourrées de volumes, les tableaux à cadres dorés, une panoplie de crisses et de flèches, de fusils et de revolvers accrochés au mur, tout chargé, selon la manie de Shailas, demeurait proche et stable, bien réel et tangible, sans la moindre apparence de cette fluctuation qui transfigure, après chaque quelques bouffées d'éther, le monde extérieur en un décor sans relief ni perspective, mal tendu et vacillant. « Es-tu sûr ? » demandai-je à Boule-Pourpoint. « Que ton haschich n'est pas une vaste blague ?»« Une vaste blague, » riposta lentement Shailas, d'une bizarre voix de tête, « une vaste blague !» Et il se mit à rire, d'un petit rire sec et saccadé. Il déposa la longue pipe sur la table, pour rire plus à l'aise, pour rire plus largement, pour éclater de rire, la tête renversée derrière les coussins du divan. À la lettre, il se tordait de rire. Une blague, le haschich, une blague, j'en étais sûr, une vaste blague. Monsieur Fernand, tu me feras mourir. C'est Cette hilarité, trop familière, je la trouvais incongrue, démesurée. J'étais froissé, et je le fis voir. Tu ris, mais ma supposition n'est cependant pas si sotte, puisque je ne sens rien. Ah, tu ne sens rien, mon pauvre ami, mais c'est vrai. Tu ne peux pas savoir encore, mais... Cette sorte d'excuse m'attendrit. Oh, je ne lui en voulais pas. Ma question, à la rigueur, pouvait lui paraître saugrenue, et j'en souriais moi-même. Je repris mes observations. Les murs s'éloignaient, comme si la pièce se fût agrandie à vue d'œil. Ma torpeur croissait. Il semblait qu'une onde subtile montât du tapis, me baignant bientôt jusqu'au cou, dont ma tête émergeait seule, où j'allais être noyé. J'éprouvais une sensation bizarre d'habiter un corps étranger, de n'avoir jamais perçu combien ce corps m'était étranger. J'examinais la tête de Schélas. Lui non plus, je ne l'avais jamais regardé. Le fil de cuivre de la table bordait à présent une étagère garnie de livres par le haut. Et dans la vitrine du bas, entre les bibelots épars, il était, ce Schélas étrange, un nilar épanoui, masque japonais. Il me fallut rire d'un rire sec, saccadé, inconvenant, d'un rire large, éclatant. Et cette exclamation me jaillit absurde. « Un magot, mon vieil Albert, mais tu as bien une bonne tête de magot !» La tête sexilara, yeux plissés, bouche tordue, en une grimace grotesque. « Un magot, oui, Fernand, un magot. Tu y es aussi, n'est-ce pas ?» En effet, j'y étais. Tout, mes propres paroles, la tête de Schélas, cette vitrine japonaise, la pièce entière jusqu'aux aiguilles caricaturales de la pendule, avait pris un aspect irrésistiblement bouffon. Je me redressais, je montais debout sur le divan pour prendre des choses une vue panoramique, et j'improvisais, sur leur cachet particulièrement drôlatique, une conférence burlesque. Les facéties affluaient en moi avec une telle abondance que je n'avais pas le temps de les développer. Je ne pouvais que les marquer au passage d'allusions quintessentielles. Mais Schélas comprenait à demi-mot, semblait même deviner avec une extraordinaire perspicacité ce que j'allais dire, et donnait la réplique à Melazzi avant que je les eusse énoncés par l'étincelante plaisanterie non moins elliptique. Ces 10 minutes-là nous tâme la plus extravagante concile de rire qu'il soit possible d'imaginer. Peu à peu, le sujet s'épuisa, les dernières fusées s'éteignirent, et je me rassis. « Oh, cela n'est rien, » affirma Schélas, « cela commence. » Et je me rendis compte, ce fut une parenthèse de pensée, que nous voyions désormais en plein haschich. Comment dire l'inexprimable ? Cette chambre me paraissait isolée dans l'espace, à 100 000 lieues de la Terre. Nous avions transmigré dans une autre planète. Mon corps recelait une âme excessivement agile et subtile, et de brefs éclairs de conscience étaient tout le souvenir de mon être antérieur. Prodige exquis et inquiétant d'avoir transgressé les bornes fastidieuses de mon individu, d'avoir rejeté la vieille enveloppe des apparences quotidiennes, de voir les choses avec des sens nouveaux, qui sait, peut-être à fond, sous leur aspect essentiel. Oui, crever la membrane de la réalité, c'est ici le plein haschich. Nulle hallucination, à vrai dire. Mes idées, prontes et saccadées, cinématographiques, filent et passent, se déroulent, volubile comme les rouages d'une montre dont l'échappement vient de sauter. Et en même temps, au fond de moi, tout au fond, une pensée énigmatique comme une lumière montant d'un puits de ruines s'élève par degrés vers la conscience, une pensée indiscernable. Gélas, lui, souriait. Quels étaient ses rêves? Pourquoi, en me regardant ce sourire de complicité, pourquoi sourire, moi aussi, avec une inquiétude secrète? Nous nous regardons sans bouger. Lui aussi voudrait bien parler, mais il n'ose plomb plus. C'est si gênant à dire, si douteux encore. Qui de nous énoncera cette idée dont le soupçon m'oppresse, me fait froid au cœur? Il a dit, « Cela va ?» J'ai répondu, « Oui, bien. » Pour gagner du temps, évidemment. Il se lève, inspecte les murs, va s'étendre sur le second divan de l'autre côté du feu, en face de moi. Cela est normal, non? Il n'y a là aucun mystère. Et de nouveau, un silence lourd. De nouveau, ce sourire ambigu et contraint. Et de plus en plus gêné, cet augural sourire. Car ce secret terrible va s'échappant. Il fuse de nos cerveaux comme de la vapeur sous pression. Il se répand autour de nous, sature la salle d'une atmosphère plus révélatrice que d'explicites paroles. Le mystère se dévoile, se communique sans que nul n'ait prononcé un mot. Il sait aussi, nous savons tous deux. Et cependant, car il faut à tout prix que l'autre ne sache pas ce que celui-là sait, chacun persiste à sourire, d'une grimace fixe et cataleptique. Et je me souviens, par éclipse, je revois la série de mes entrevues précédentes avec Chélas. J'analyse à mesure son caractère sombre, ses accès de pessimisme, son goût pervers de flirter avec la mort. Un jour, il mêlait à des pilules d'opium, une pilule de même aspect, contenant une dose foudroyante de strychnine, et m'invitant à l'imiter, en avait une tirée au hasard. Il était fou, lorsqu'ayant laissé une cartouche à balle dans son revolver, il me faisait tourner le brérier à l'aveuglette, puis s'écriait « Trois !» et trois fois le canon de l'arme dans sa bouche. Il appuyait sur la gâchette sans amener la balle qui venait au quatrième. Et cet autre jour, où il me dit avec un regard singulier, me désignant sa maîtresse, « Oh, si elle te plaît !» Cependant, j'ai les yeux ouverts, et lorsque ces images s'évanouissent, comme la figure reflétée par une glace sans fond, sans teint, se fond dans les choses placées derrière, celle-ci venant à s'éclairer, je vois en face de moi, sur le divan, de l'autre côté du feu, Chélas, qui m'analyse avec curiosité. Nous étions jeunes alors, oh, il y a 2 ans. La vieillesse hâtive du poison ne nous avait pas encore injecté dans ses veines un tel mépris de la vie. Mais moi, je ne m'en suis pas si détaché, voyons. Évidemment. Il a répondu haut à mon interrogation psychique. C'est clair, il sait. Il pénètre ma pensée comme je pénètre la sienne. Nos pensées, absolument synchrones, ne font qu'une en 2 cerveaux. Absolument synchrone, je vois au caractère de son sourire où je le lis, nos idées, que la coïncidence n'est pas complète. Il y a, ça et là, un décalement dans la transmission. Mais il faut savoir si c'est bien vrai, Si ce prodige de télépathie, par un mystérieux effet de la drogue, relie effectivement nos cellules cérébrales, si nos dynamismes psychiques sont bien entrés en communication, si la pensée circule entre nous comme entre des vases communicants, est-ce vrai? Et je prononce « Oh, mais ce serait admirable !»« Admirable, oui, n'est-ce pas ? Toi aussi !» réplique Chalers, dont le regard ne me quitte pas. Plus de doute, immobile comme une statue, je ne manifeste pas mon émotion. Et voici que notre culte du haut se poursuit en moi, faisant alterner mes pensées avec d'autres, d'un caractère sombre et hagard, que je ne reconnais pas, indubitablement fourni par Chalers. Afflux de tristesse cosmique et de mortel dégoût, flagrante inutilité de notre vie, idées étrangères que j'adopte, que je dois adopter, comme Chalers, par afflux réciproque, doit admettre en lui ma pensée. Dans les interstices de cette conversation psychique se glissent des apartés indépendants. Une parcelle de mon moi, soustraite à la contagion, résonne par éclairs sur l'horreur du phénomène. Absolu déterministe, accoutumé par les autres poisons à ne voir en ma conscience lucide qu'un témoin inactif des charges fatales qui régissent ma pseudo-volonté, je me révolte cette fois de me trouver sous l'influence directe d'un autre cerveau humain, de subir ses idées, fût-ce avec la revanche assurée du même empire sur lui. Et parfois, revêtant la matérialité de la parole, se formulent les répliques attendues, à leur instant précis. Et voilà qu'attestant le sortilège, il répond à ma question mentale. « Oh, ça y est bien, pas de doute. Mais je ruse à présent, je me réfugie dans l'îlot de lucidité strictement personnel qui épargne les courants et les remous de notre double pensée. Je m'y retranche pour éprouver si nous sommes liés indissolublement. Parfois, j'ai le dessus. Je sens ma pensée couler en lui, tel un fleuve dans la mer. Et parfois, c'est la sienne qui reflue en moi, irrésistible, comme la marée remplit un estuaire. Allons, plus fort. Non ! Mais qui donc ici a la commande de notre couple psychique ? Toi ou moi ? Réponds. Réponds tout haut, je le veux. » Il ne prononce rien. Il me regarde toujours. Mais une voix intérieure s'écrie. « Moi ? Mais qui a pensé ? Lui ou moi ? » Et je m'efforce de toute ma volonté. Ah, oh, pour ceci, j'en use du libre arbitre. Je l'adresse, je l'arc-boute de toutes mes forces pour vaincre cette volonté antagoniste, enlacée comme des flûteurs dans l'idéal espace qui nous sépare. Témoins en apparence indifférents, nos volontés se colèrent dans un duel aux passes farouches. Des sursauts de triomphe me traversent. Il va y toucher des épaules. Et j'appuie, oh, j'appuie. Mais mon effort se relâche, sans qu'il ait crié sa défaite. Et je dois à mon tour me défendre terriblement. C'est un duel à mort. À mort, car l'oscillatoire, ivre et servile, tourneuse double pensée enlacée, se vertiginise sur la spirale descendante de ces litanies alternées vers le suicide. Il veut se suicider. Il est fou. J'aurais bien dû le voir. Et aujourd'hui, cette vieille hantise va se réaliser. Il pense, je le sais, il pense aux armes accrochées derrière lui à la muraille, ses revolvers chargés, qu'il voit comme je les vois, sans les regarder. Mais oh, n'est-ce pas moi qui viens de lui suggérer la chose? Y pensait-il vraiment? Et alors tu me tuerais? Car il a le prosélytisme du suicide. Il veut me délivrer de la vie, malgré moi-même. Tu me tuerais, et puis toi-même. Nous tuerions avec les revolvers là-bas. Oh, n'approche pas, je te le défends. Moi, je reste immobile, pour le maintenir aussi à sa place, car si j'essayais de le devancer, il pénétrerait d'abord mon projet, et je ne pourrais, tout bas, ceci tout bas, le tuer avant qu'il n'en fasse autant de moi. Assez, je te défends. Pensons un instant à autre chose, que j'ai le répit dans notre corps à corps de reprendre des forces pour dompter tes impulsions, que j'ai le temps de te vaincre. Pensons à autre chose, passons. Mais je ne trouve rien. Et dans le vide de ma suggestion, c'est la pensée mortelle qui va jouer, me remplir aussi. Écoute, je me souviens. Non, non, pas cela, je ne veux pas. Je n'ai rien dit. Sur tout cela, que ta maîtresse. Mais suis-je donc fou de lui révéler? Mais je ne veux pas, moi. Moi, mais qui, moi? Ce jour-là, Oh non, rien. Oh, Victoire. Rien. Écoute, je vais te dire. Et nos regards noirs aux pupilles énormes se sondent. Nos visages sont terribles, oraculaires. Viens, allons. Oui, ce sont nos pensées synchrones. Allons. Une force mystérieuse et commune. Dominatrice, notre destinée jaillit du double tréfonds de nos êtres. Viens, nous allons mourir. Traître, tu as menti. C'est ta démence que tu veux faire passer pour notre destinée. Je veux vivre, moi, et je vivrai. Ma force est revenue, je veux. Victoire. J'ai pris la commande du couple, ou pour un bref instant peut-être. N'importe, cela suffit. Reste là, je t'ordonne de rester là. 20 secondes, je le veux. Reste fou. Ah, j'ai bondi, j'ai pu bondir, en avance sur lui. Ouvrir la porte, la refermer de l'extérieur à double tour. Et m'enfuir, libre, m'enfuir dans la nuit, chez moi, me renfermer aussi à double tour. La communication était brisée entre nous. Quelques fragments de sa pensée flottèrent encore jusqu'à moi. Vaincu, il voulait tourner là le drame en plaisanterie, s'excusait platement. Et après une heure de veille, revolver au poing, je sentis qu'il venait de s'endormir. Sauvé! J'avais reconquis mon individualité, ma précieuse individualité, soumise au seul jeu des forces éternelles, et non à l'insupportable conjonction avec un autre cerveau humain. Je n'osais m'endormir. Quand je me réveillais d'un sommeil grouillant de rêves néfastes, le souvenir de l'aventure me troubla de nouveau. J'avais recouvré ma conscience normale et ma pleine lucidité. Mais, contrairement à ce qui se passe après les fantasmagories de l'éther, je ne pouvais voir une simple illusion dans la télépathie de la veille. L'effet de la drogue avait cessé. Je raisonnais avec mon cerveau de tous les jours. ce cerveau qui nie systématiquement la possibilité des forces surnaturelles. Et pourtant, je ne croyais pas que ces étranges phénomènes fussent d'ordre purement subjectif, même s'ils n'étaient qu'une illusion du hashish. Celui-ci n'avait-il pas éveillé, tiré les profondeurs de mon engarnisme pour la faire naître à la conscience, ma folie, l'attente jusque-là du suicide. Et si c'était vrai, si ça avait été vrai, interrogé Schellas, mais aujourd'hui il est redevenu un civilisé lucide, ne dirait-il pas ces impulsions sauvages, cette scène farouche où s'était comporté un homme des cavernes? Et moi, mon rôle n'avait pas été grotesque et odieux? Je l'évitais donc. Je lui fis consigner ma porte, car enfin, il pourrait venir me demander pourquoi j'avais enfermé chez lui. Il fallut bien, cependant, me laisser aborder lorsque nous nous rencontrâmes 8 jours après sur le boulevard. Il était comme toujours taciturne et fermé. Il n'entendra pas la question. Dévoré d'une de ces brutes fatales curiosités qui font éclaircir ce qui n'a jamais resté dans l'ombre, je voulais savoir, moi. Nous étions silencieux, un vertige léger comme une rémanence du hashish flottait entre nous, malgré la positive atmosphère du boulevard. À l'instant précis où j'allais parler, je vis une hésitation pareille à la mienne, une crainte que je lui révélasse la réalité de l'aventure. Et la moindre allusion de lui ou de moi en était l'irréfutable preuve. Ensemble, nous détournâmes les yeux. Ensemble, nous entreprîmes le même lieu commun.